Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Noemsi. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très très heureux, c'est toujours le cas quand je reçois mon amie Isabella Huberman qui est une fois de plus dans ce studio. Bonjour Isabella.
Bonjour Elvis.
Comment est-ce que tu vas?
Je vais très bien, merci.
Est-ce que tu as passé une bonne semaine?
Oui, j'étais pas mal occupée, mais c'était quand même une bonne semaine.
Ok, très bien. Alors tu nous reviens aujourd'hui parce que tu as un autre texte à nous proposer. Pour rappel, la dernière fois tu nous parlais d'un essai, fondateur, celui de Anne Anta. Capèche, je suis une maudite
sauvagesse. Très bien.
Ouais, tout à fait, un texte fondateur, comme vous l'avez compris, et qui a, je dirais, jeté les bases de la littérature autochtone, notamment au Québec. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec un autre texte qui, cette fois-ci, est de la fiction à proprement parler.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un roman qui s'intitule La saga des Béotucs de Bernard Assinioui. Et c'était publié chez Actes Sud en 1996.
Ok. Très bien, Acte Sud de la maison d'édition française. Alors, on va commencer tout de suite par une mise en perspective avec la présentation de l'auteur, si tu le veux bien.
Alors, Bernard Assinioui est né à Montréal en 1935 d'une mère canadienne-française d'origine algonquine et d'un père algonquin et Cree. Et il est mort en 2000. C'est quelqu'un qui se définissait en tant que Cree pendant sa vie, bien qu'il était d'origine métissée. Il a publié une trentaine de titres de son vivant. Son travail créatif inclut des romans, des livres pour la jeunesse, une pièce de théâtre et une nouvelle. Il a aussi écrit de nombreux articles et essais dans lesquels il dénonce explicitement les abus à l'encontre des peuples autochtones. Alors c'est quelqu'un qui s'est érigé comme une voix polémique et un défenseur des droits autochtones. Il militait aussi pour la conservation du patrimoine des Premières Nations et il a publié des lexiques de langue autochtone. Alors, l'ensemble de son œuvre est très varié. Il a vraiment fait un peu de tout. Mais son œuvre était une des premières œuvres à être largement distribuée au Québec. Et il a aussi été traduit en anglais. Alors, aujourd'hui, il est lu par les publics anglophones et francophones. La saga des Béotucs est sa dernière œuvre littéraire. Et elle marque en quelque sorte la culmination de son œuvre et de sa pensée.
Alors, c'est vrai qu'avec cette mise en perspective, on peut déjà plus ou moins s'imaginer à quel type de texte est-ce qu'on aura affaire ici. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler du texte précisément, la saga des Béotucs?
Oui, alors la saga est un grand roman sur le peuple Béotuc. Les Béotucs étaient les premiers habitants de Terre-Neuve. Leur histoire est une histoire tragique parce qu'ils ont été exterminés au 19e siècle par les colons britanniques. Donc il ne reste malheureusement plus de Béotucs aujourd'hui. Le roman est un roman historique mais mélange aussi les registres mythiques, épiques et ethnographiques. Donc il y a vraiment un peu de tout. Je dis que c'est un grand roman aussi parce que c'est un livre de 500 pages. Alors, au cours de ces 500 pages, Bernard Assinioui retrace l'histoire des Béotucs depuis leur premier contact avec les Vikings jusqu'à la colonisation britannique de l'île et l'extinction de la dernière des Béotucs, une femme qui s'appelait Shanaudithit. C'est une épopée qui se divise en trois parties, chacune illustrant un moment clé dans l'histoire des Béotucs. Donc, la première partie se déroule autour de l'an 1000 et raconte la fondation de la nation Béotuc. La nation se forme à partir d'un métissage interculturel, lorsque Anain, le personnage principal de la première partie du roman, s'allie avec des Écossais, des Vikings et des étrangers amérindiens qu'il rencontre lors de son voyage initiatique autour du monde. Alors, son monde, c'est l'île de Terre-Neuve. La deuxième partie dépeint la période de premier contact avec les Européens au 16e siècle, qui sont venus surtout pour des raisons économiques et qui voulaient tirer profit du territoire des Béotucs. Donc, leur relation avec les Béotucs était surtout une relation de commerce. Et la dernière partie, intitulée « Le génocide », illustre l'éradication systématique de la nation au 19e siècle, qui est alors réduite à quelques familles. En mettant en scène trois moments différents de l'histoire des Béotucs, dont des moments avant et pendant la colonisation, Bernard Assinioui nous montre la transformation du monde Béotuc à travers le temps. Cet axe historique sur lequel l'histoire s'étend nous rend témoin des effets de l'interaction coloniale sur les relations Béotuc.
Isabelle, alors je sais par expérience que les littératures qui dépeignent très souvent les affres de la colonisation, ce sont des littératures plutôt fonctionnelles et un peu moins ludiques que peuvent l'être les autres littératures. Et tu as parlé, tu as mentionné tout à l'heure dans ton propos le caractère ethnographique de ce texte. Est-ce que tu peux un peu élaborer?
Oui, alors le roman se situe vraiment à la croisée de l'histoire et de la fiction. Bernard Assinioui a fait beaucoup de recherches pour ce livre, son dernier. C'était un grand passionné de l'histoire et un spécialiste des cultures autochtones. Alors, il décrit en détail le mode de vie des Béotuk. Il donne, par exemple, des descriptions de la chasse à la baleine, des descriptions de leurs vêtements, de leurs habitudes de mariage, de leur structure politique et familiale, ainsi que leurs valeurs et philosophies. Il privilégie la valeur documentaire du récit et inclut en annexe une chronologie des événements historiques des Béotuk, un lexique du vocabulaire de la langue Béotuk, qu'il emploie d'ailleurs dans le roman, ainsi qu'une bibliographie des sources secondaires consultées. Alors ce paratexte contribue à offrir une fiabilité scientifique au texte.
Tout à fait, mais on n'oublie pas qu'il s'agit d'un roman et donc il s'agit de fiction. Et est-ce que tu peux nous parler quand même de la dimension fictionnelle ou fictive de ce texte?
Alors, j'ai dit que le roman se situe à la croisée de l'histoire et de la fiction parce que d'un côté, on retrouve des éléments ethnographiques véritables, on retrouve même des personnages qui ont réellement existé, comme Jean Cabot, l'Italien qui arrive au 15e siècle, ou les marins français de Jacques Cartier, ainsi que des personnages béotuques dont on connaît les noms à cause des documents historiques. Mais de l'autre côté, il y a une forte dimension fantastique et mythique à ce roman. La société Béotuk, avant la période des premiers contacts avec les Européens, est dépeinte comme une société utopique, ayant des valeurs idéales qui sont détruites par les relations coloniales. Bernard Assinioui invente aussi des relations intimes entre les membres de la nation et nous avons aucun moyen pour savoir si ce sont des relations qui ont réellement existé. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'Assinioui nous montre l'histoire du point de vue des Béotuk. Et ce n'est pas de leur point de vue que l'histoire, avec H majuscule, a conventionnellement été racontée.
Merci beaucoup Isabella, mais revenons un tout petit peu sur ce que le texte nous apporte, ce qu'il nous apprend, et dis-nous un peu quelle est la fonction particulière en contexte autochtone de la fiction historique.
La fiction historique en contexte autochtone détient une dimension libératrice et revendicatrice importante. C'est Paul Ricoeur, le philosophe français, qui a dit que l'une des fonctions principales de la fiction est de libérer rétroactivement ce qu'il appelle les possibilités non effectuées du passé actuel. Cela veut dire qu'à travers l'univers historique qui est recréé dans la fiction, le roman historique peut mettre en question les événements du passé officiel, c'est-à-dire celui qui a été raconté dans les livres d'histoire et les livres d'archéologie. Alors, en contexte autochtone, l'exploration des possibles non-avenus détient une forte dimension décoloniale. La saga raconte la version de l'histoire telle que vue et vécue par les Béotuk. Bernard Assinioui met au premier plan la perspective béotuque dans une stratégie de réécriture et de repositionnement de l'histoire officielle. C'est grâce à l'œuvre de fiction que les Béotuk retrouvent l'humanité qui leur a été enlevée lorsqu'ils ont été relégués à un peuple disparu dans les livres d'histoire.
Alors, on parlait tout à l'heure de saga historique et on parle bien entendu, pour rappel pour nos auditeurs, du peuple, les Béotuk, les premiers peuples de Terre-Neuve. Et alors, dis-nous un peu, à quoi ressemblait, qu'est-ce que nous apprend le texte, à quoi ressemblait leur relation avec les étrangers?
Oui, alors, les Béotuk ont accueilli beaucoup d'étrangers au cours des siècles. Il faut se rappeler que la nation est elle-même fondée dans un métissage culturel entre vikings étrangers et amérindiens, donc entre étrangers. Et c'est peut-être en raison de leur origine dans le métissage que les Béotuk accueillent les étrangers très chaleureusement dans les premiers temps. Alors au début, c'est-à-dire la période autour de l'an 1000, les étrangers sont vus comme des sources de savoir alternatifs qui pourraient contribuer à l'érudition du peuple grandissant. Cependant, ce n'est pas toutes les relations aux étrangers qui sont favorables et celles-ci se détériorent au cours des siècles. À travers le temps, les Béotucs accueillent des étrangers d'origines diverses ayant différents projets sur l'île de Terre-Neuve. Par exemple, les Français qui arrivent au 16e siècle veulent entretenir des relations de commerce pour profiter des ressources naturelles du territoire. L'arrivée des Anglais au 19e siècle annonce une relation menaçante puisqu'ils visent directement l'extermination des Béotucs. En fait, les Britanniques avaient mis en place un système de récompense pour les colons qui assassinaient les Béotucs. Alors, dans cette dernière partie, la saga sert de testament des atrocités commises par les pouvoirs coloniaux dans les époques de l'expansion britannique.
Ouais, réalité très dure en effet.
Et très triste.
Oui, que celle qu'a vécu les Béotucs, c'est dommage, mais c'est bien qu'on ait ce texte-là qui sert vraiment plus ou moins de testament. Alors, tu nous as donné énormément de matière depuis que on a commencé cette chronique concernant les Béotucs. Ça donne le sentiment d'un roman très long et ça permet aussi de se poser des questions sur la manière dont il est narré.
Oui, c'est une très bonne question. Alors, la saga des Béotucs est racontée par une succession de mémoires vivantes, des membres de la nation désignés pour transmettre l'histoire de leur peuple des premiers temps jusqu'à leur moment présent. Et ce sont ces mémoires vivantes qui créent la continuité entre les trois parties du roman. La narration est très intéressante puisqu'on observe un mouvement graduel au cours du roman d'une narration omnisciente et anonyme vers un narrateur individuel et précis. Alors dans la première partie racontant la fondation de la nation, on ne connaît pas l'identité du narrateur. Ce n'est que vers le milieu de la deuxième partie du roman, se déroulant lors de la période des premiers contacts, qu'on apprend que ce sont des mémoires vivantes qui racontent l'histoire. Et dans la troisième partie, la dernière personne à jouer le rôle de la mémoire vivante est l'ultime membre existant de la nation, la jeune femme Shana Ditit. Cette transformation dans la narration du collectif vers l'individuel reflète les changements se produisant dans la communauté béotuque au cours des 800 ans illustrés dans l'épopée. Au cours de l'épopée, la voix narrative se transforme d'une voix externe et omniprésente au « nous » qui inclut la mémoire vivante dans l'expérience du groupe et finalement au « je » qui relate le point de vue de la dernière narratrice. Dans ce sens, la narration imite la réduction physique du peuple, de la transformation de leur mode de vie communal et leur identité collective, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul individu et une seule voix.
Et alors, si ces différentes chroniques en fait de la vie des Béotucs sont racontées par des mémoires vivantes et qu'à la fin il n'en reste plus qu'une, ça veut dire que l'histoire s'arrête quand il n'y a plus de narrateur ?
Oui, un peu. Oui, en fait, je dirais oui et non. Alors, le roman s'achève avec la mort de Shana Ditit, la dernière Béotuc, mais en quelque sorte, le roman lui-même devient une mémoire vivante. Le roman permet, malgré l'extinction du peuple, de continuer la pratique de la préservation de la mémoire et la transmission du savoir. La saga est une mémoire vivante car il met de l'avant une réincarnation de l'histoire des Béotucs à travers la fiction. Le génocide des Béotucs signale leur éradication éventuelle de l'histoire, mais ils vivent quand même dans le présent de la lecture. Chaque lecture les fait revivre et ils persistent comme ça dans la mémoire des autres. Alors voilà pourquoi c'est important de lire ce livre.
Wow, c'est phénoménal, Isabella. J'avoue, je suis en admiration devant toi et devant le travail formidable de défrichage que tu effectues. La dernière fois, je le rappelle encore pour nos auditeurs, on parlait de Anantan Kapesh. Je suis une maudite sauvagesse. Et aujourd'hui, on parle de la saga des Béotucs paru chez Actes Sud. Merci infiniment, Isabella, d'être passée dans ce studio.
Mon plaisir.
Et j'espère qu'on va te retrouver dans les prochaines semaines pour des textes encore plus intéressants concernant les littératures des Premières Nations.
Absolument.
Très bien. Quant à vous, restez en compagnie des programmes de Choc FM. Isabella Huberman nous a promis, elle reviendra, donc restez scotché pour découvrir des merveilles, des joyaux des littératures des Premières Nations. Au revoir.